Nous allons commenter un passage tiré de l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 16 à chapitre 3, verset 4. En voici la lecture. Que nul ne vous condamne pour des questions de nourriture ou de boisson, à propos d'une fête, d'une nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre de ce qui devait venir. Mais la réalité relève du Christ. Ne vous laissez pas frustrer de la victoire par les gens qui se complaisent dans une dévotion, dans un culte des anges. Ils se plongent dans leur vision et leur intelligence charnelle les gonfle de chimères. Ils ne tiennent pas à la tête dont le corps tout entier, pourvu et bien uni grâce aux articulations et ligaments, tire la croissance que Dieu lui donne. Du moment que vous êtes mort avec Christ et donc soustrait aux éléments du monde, pourquoi vous plier à des règles comme si votre vie dépendait encore du monde? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Tout cela pour des choses qui se décomposent à l'usage. Voilà bien les commandements et les doctrines des hommes. Ils ont beau faire figure de sagesse, religion personnelle, dévotion, ascèse. Ils sont dénués de toute valeur et ne servent qu'à contenter la chair. Du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez ce qui est en haut, là où se trouve le Christ assis à la droite de Dieu. C'est en haut qu'est votre but, non sur la terre. Vous êtes mort en effet. Et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Alors, une petite introduction à cette épître aux Colossiens. Alors, à première vue, les problèmes de cette épître paraissent bien éloignés de nos préoccupations à nous, au XXIe siècle. C'est parce que ça tourne beaucoup autour d'une histoire de nourriture. Mais, comme on le verra dans la suite du commentaire, c'est pas du tout le cas en fait. Alors maintenant, pour situer cette épître, Paul est en prison et le fondateur de la communauté donc des Colossiens, de Colosse, une petite ville pour à l'époque donc qui n'a pas beaucoup d'importance. Donc le fondateur, je crois que c'est Ephratas, vient trouver Paul en prison et lui explique les problèmes de sa communauté et Paul. Donc, peut-être à la demande des Fratas, va écrire une épître pour essayer de remettre les choses en ordre. Alors, visiblement, la communauté est confrontée à un problème de trois ordres. D'abord, avec les judéo-chrétiens qui essayent d'imposer aux chrétiens de Colosse les rites et les lois de Moïse auxquels Paul va s'opposer maintes et maintes fois dans ses épîtres. C'est l'histoire des nourritures, de ce qu'il faut manger ou pas, de la viande, etc. Ce qu'on appelle la viande cachère maintenant. Il y a aussi cette dévotion aux anges, ce culte des anges, donc des gens faisaient passer avant le Christ certains anges, certaines figures célestes, et cela commençait à brouiller les cartes et à charger le christianisme de choses dont il ne devait pas être chargé, justement. Et ensuite, on voit des traces de gnosticisme. Donc le gnosticisme consiste en gros à nous faire croire qu'il y a des connaissances cachées et à surcharger la foi chrétienne, qui est une foi simple, comme nous allons le voir, de toute une histoire de philosophie, de choses compliquées. Hein, je simplifie, gnose veut dire connaissance en grec, notamment en liant la résurrection de la chair, la crucifixion du Christ, etc. Donc si vous voyez, sur ces trois plans, les Colossiens ont amené une dure bataille et Paul va les aider en leur rappelant les fondamentaux de la foi chrétienne. Et c'est en ce sens-là que cette épître est tout à fait actuelle. Alors, maintenant, pour approcher plus avant le texte, je vous propose un commentaire linéaire. Que nul ne vous condamne pour des questions de nourriture ou de boisson à propos d'une fête, d'une nouvelle lune ou de sabbat. Donc ici, nous avons le piège dans lequel beaucoup de chrétiens pouvaient tomber à l'époque des débuts du christianisme, c'est-à-dire les judéo-chrétiens, ceux qui veulent suivre la loi de Moïse, etc. Mais si on va plus profondément, pour nous actuellement, hein, c'est ça, en fait, quand on lit la parole de Dieu, qu'il faut viser à faire, comment actualiser le texte. Eh bien, ce qui est très dangereux, c'est que parfois on oublie les deux fondamentaux de la foi chrétienne, qui sont aimer Dieu et son prochain, et c'est ça que Paul va nous rappeler tout au long de ce passage. Qu'est-ce qui est le plus important? Condamner les gens, les juger, ou respecter des fêtes, des lunes et des sabbats? Et je pose la question parce qu'elle mérite d'être posée. Faisons très attention Ne substituons pas à l'amour du prochain des commandements, des rites et des choses qui n'ont pas lieu d'être. Le plus important, c'est d'aimer son prochain. Donc la foi chrétienne, c'est le cœur, c'est aimer Dieu et son prochain. Donc il ne faut surtout pas que notre foi nous permette de juger les autres, comme si nous étions supérieurs. Certes, nous avons rencontré le Christ, mais plutôt que de les juger, prenons l'attitude, vous savez, du Samaritain, et enfin, pardon, je me trompe, du publicain et du pharisien. Vous connaissez peut-être cette parabole de l'évangile de Luc, où vous avez un pharisien qui se vante, en gros, de respecter les commandements de Dieu, jeûne, paiement de la dîme, etc. Et puis, il y a le publicain qui, lui, dit « Seigneur, prends pitié de moi ». Et le pharisien en vient même à dire « Merci de ne pas être comme ce publicain, que notre foi, surtout, ne nous conduise pas à nous estimer supérieurs, mais bien à prier pour nos frères, pour les amener à Jésus-Christ. » C'est ça, la foi chrétienne. Donc, montrer de l'amour et prier pour nos frères plutôt que de les condamner. Et cette attitude peut se produire quand justement nous oublions quel est le centre de notre foi, quand nous oublions les priorités. Il est plus important d'aimer nos frères que de respecter tel ou tel rite. Ne l'oublions pas. Donc tout cela n'est que l'ombre de ce qui devait venir. Mais la réalité relève du Christ. Ne vous laissez pas frustrer de la victoire par des gens qui se complaisent dans une dévotion, dans un culte des anges. Ils se plongent dans leur vision et leur intelligence charnelle les gonfle de chimères. Alors ici, vous voyez, faisons très attention. Parce que beaucoup de gens, effectivement, ont un culte des saints, un culte de la Vierge Marie, ce qui est très bien, ont des dévotions personnelles, mais ils encombrent la foi chrétienne au détriment de ce qui est fondamental. La réalité relève du Christ, nous dit Saint Paul dans cet épître. La foi chrétienne, c'est avoir une relation personnelle avec Jésus qui va déborder vers notre amour pour nos frères. C'est-à-dire cette relation avec le Christ, elle va influencer notre amour vis-à-vis de nos frères. Donc, je le répète, le centre, c'est notre relation personnelle à Jésus-Christ. C'est ce que dit Paul, la réalité relève du Christ. Alors, la dévotion au saint, à la Vierge Marie, n'a de sens que si elle nous rapproche de Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est ce que les saints et la Vierge veulent. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas, mais il faut que cela soit subordonné à la connaissance de Jésus-Christ. C'est notre relation personnelle à Jésus qui est le fondement de notre foi, avant tel ou tel rite, etc. Si nous avions ça en tête, il n'y aurait pas de querelle de traditionnalisme, de rite, etc. entre Vatican I, Vatican II. Ce qui est important, c'est notre relation à Jésus avant même tel ou tel rite ou telle dévotion. Tout doit être au service de notre relation à Jésus. Tout est bon dans la mesure où cela renforce notre relation à Jésus. Voilà la ligne de conduite. Si nous avions cette ligne de conduite, il y aurait moins de tension dans l'Église. Alors, après, Paul continue, « Ils ne tiennent pas à la tête dont le corps tout entier, pourvu et bien uni grâce aux articulations ligaments, tire la croissance que Dieu lui donne. » C'est ce que je viens de dire. L'Église se portera d'autant mieux qu'elle se centre sur son Seigneur. Si on regarde l'histoire de l'Église, parfois l'Église a été éloignée de son Seigneur par tout ce qui est, par exemple, les indulgences, ou utilisées à outrance, certaines dévotions, etc. Quand l'Église commence ou le pouvoir politique, excusez-moi, etc. Quand l'Église commence à se souvenir que sa marque de fabrique, c'est d'aimer son Seigneur, alors elle se porte mieux. Et pareil, nos divisions entre chrétiens iraient beaucoup mieux si nous avions en tête que ce qui est premier, c'est notre relation à Jésus-Christ, qui doit déborder jusqu'à nos frères. Voilà. Alors continuons le texte. Du moment que vous êtes mort avec Christ, et donc soustrait aux éléments du monde, pourquoi vous pliez à des règles? Comme si votre vie dépendait encore du monde. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Tout cela pour des choses qui se décomposent à l'usage. Voilà bien les commandements et les doctrines des hommes. Ils ont beau faire figure de sagesse, religion personnelle, dévotion, ascèse, ils sont dénués de toute valeur et ne servent qu'à contempler la chair. Alors là, pareil, la foi chrétienne n'est pas d'abord une morale ou des commandements à suivre. La foi chrétienne, c'est vivre son Seigneur. C'est ce que saint Paul dit, être mort avec Christ. Donc, c'est-à-dire, accepter de suivre Jésus, quoi qu'il en coûte. C'est donc une relation personnelle, aimante avec son Seigneur. C'est ça la foi au Christ. Le Christ est venu nous offrir la possibilité d'avoir une relation personnelle avec Dieu en s'incarnant. Et les commandements et la morale ne viennent qu'après. C'est une conséquence de notre amour pour Jésus. Donc faisons bien attention à la façon dont nous présentons la foi chrétienne. Parce que si nous présentons la foi chrétienne comme une morale, nous n'attirerons pas beaucoup de gens parce que, tout simplement, nous nous centrons sur ce qui est secondaire. La révolution chrétienne, c'est de rencontrer son Seigneur, de l'aimer, et en l'aimant d'apprendre ce qu'est l'amour, tout court. Et alors après, ça va de soi, les commandements et tout le reste, ça suit tout à fait naturellement parce que nous aimons le Christ. C'est ce que saint Paul dit et redit dans ses épîtres, nous sommes sauvés par la foi. Et c'est ensuite que notre vie doit être en accord avec notre foi. Mais ce qui est premier, c'est bien la foi, l'amour pour notre Dieu, notre confiance en lui. Et après, tout naturellement, si notre amour est sincère, eh bien notre vie s'en ressent. Mais c'est bien dans l'ordre là qu'il faut voir les choses. Le Christ, et ensuite les commandements ou la morale. Donc, et c'est pareil, si nous avons l'occasion de présenter la foi chrétienne, que ce soit par les paroles ou même par nos actes, les gens doivent voir que ce qui nous anime, c'est notre amour de Jésus, et par Jésus notre amour de Dieu. Autrement, c'est pareil ici, il parle de religion personnelle, dévotion, ascèse. Alors là, c'est un petit peu, beaucoup de gens aussi font beaucoup d'œuvres pour essayer de gagner leur paradis. Mais c'est pas ça. Nous devons d'abord aimer Dieu, accepter le don de son Fils, l'amour qu'il nous donne gratuitement, et par reconnaissance l'aimer. C'est dans cet ordre-là qu'il faut faire les choses. Autrement, nous sombrons un peu comme dans l'hindouisme ou le bouddhisme, essayer de sauver sa peau en faisant le maximum d'œuvres, comme si Dieu et son amour n'existaient pas, et c'est comme si nous devions nous justifier nous-mêmes. Donc c'est ce que dit Paul, ils sont dénués, donc tout ça c'est dénué de toute valeur. Elle ne sert qu'à contenter la chair, parce que si nous voulons agir par nous-mêmes, alors nous allons être orgueilleux, nous allons nous estimer au-dessus des autres, etc. De même, si nous avons une morale que nous mettons avant notre relation à Jésus, eh bien c'est là où nous allons juger les autres parce qu'ils n'ont pas la même morale que nous. Alors que si nous avons l'amour du Christ d'abord, eh bien nous voudrons amener les gens à Jésus-Christ. En nous souvenant que nous étions comme eux avant de le rencontrer, alors nous aimerons d'autant plus nos frères et nous prierons avec d'autant plus de force pour eux. Vous voyez ? Alors, continuons. Du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez ce qui est en haut, là où se trouve le Christ assis à la droite de Dieu. C'est en haut qu'est votre but, non sur la terre. Vous êtes mort en effet, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Alors là, donc on peut continuer sur la même ligne. Ce qui doit nous animer, c'est notre foi en Jésus-Christ. Et alors, il y a une interprétation biblique ici qui s'y prête, une interprétation lithanagogique, qui nous recentre sur la vie éternelle. Paul nous dit que ce qui doit nous motiver, c'est de regarder en haut. Cette vie n'a de valeur que dans la mesure où elle nous permet d'approfondir notre relation avec Dieu et avec nos frères. Il ne faut pas perdre de vue ces réalités, parce que si nous faisons d'abord de la foi chrétienne une histoire de commandements à respecter et de morale, ou de rites, etc., eh bien nous nous recentrons sur cette vie-là. Ce qui doit nous animer, c'est la fin de notre vie, le but de notre vie, avoir une relation personnelle avec le Père en Jésus-Christ, et que de cette relation, eh bien, déborde toute relation vers nos frères. Et c'est ça le paradis, c'est ça le ciel. Et nous devons avoir les yeux fixés sur ce que sera notre vie, parce que dans le ciel, il n'y aura pas de nourriture à prendre ou à pas prendre, de commandement ou de morale. Il y aura simplement aimer Dieu et son frère. Il ne restera plus que ça, c'est ce que dit Paul dans l'Épître aux Corinthiens. L'espérance, la charité et la foi, il ne subsistera que l'amour dans le ciel. C'est ce qu'il dit, Paul. Et oui, nous verrons Dieu plus de foi, puisque nous le verrons plus d'espérance. Cela sera rempli, il y aura l'amour. Eh bien, nous ne devons pas oublier ces fondamentaux. Donc, ayons les yeux fixés vers le haut, sachons que cette vie n'a de valeur que dans la mesure où elle nous permet, par la prière, de nous perfectionner en amour, amour vers notre Dieu, amour vers nos frères. Ensuite, quand Saint Paul nous encourage à regarder vers en haut, et après il nous encourage à attendre la victoire du Christ qui pour l'instant est cachée, c'est aussi face à nos problèmes ou face à l'indifférence des gens, si nous voulons les amener à Dieu, plutôt que de compter sur nos propres forces, les doctrines des hommes, sur des techniques et ces choses-là qui sont parfois nécessaires, mais c'est secondaire. Ayons toujours les armes de Dieu en premier, qui sont prière et amour et patience. Sachant que le Christ, notre vie paraîtra, et nous avec lui en pleine gloire. Les gens sont très indifférents souvent à Dieu, ce monde est indifférent. Eh bien, n'ayons pas l'illusion que, à force de gesticulation, nous les amènerons à Dieu, parce que nous allons nous épuiser. Soyons des gens calmes, réfléchis et pleins de foi. Prions et aimons. Sachant que la grâce du Christ fait le reste, et que, en temps voulu, elle paraîtra en pleine gloire. Et nous aussi, c'est-à-dire que les gens reconnaîtront que ce que nous croyons est essentiel. Alors tout ce que nous avons à faire, et c'est beaucoup, aimer, prier et être patient, laissant faire le travail du Christ, et que l'Église aussi en soit consciente. Ce n'est pas que par rapport à nous, et notre prière pour nos frères, et notre amour, quand nous voulons les amener à Jésus-Christ. C'est toute l'attitude de l'Église qui doit suivre ce précepte. Le Christ, notre vie paraîtra, et nous en pleine gloire, en attendant patience, amour et prière. De même, quand nous connaissons des problèmes, rechercher ce qui est en haut, c'est aussi nos efforts, c'est sûr, mais ils ne sont pas premiers, ils ne sont là que pour accompagner, dans la patience et la prière, l'action de Dieu. Parce que rechercher ce qui est en haut, c'est aussi la prière. La prière qui doit venir en premier, qui supporte, qui soutient tous nos efforts, qui les justifie. Et le reste, nos efforts, ne sont là que pour accompagner la prière. Ils n'ont de sens que par rapport à la prière. Parce que si c'est l'inverse, si nous faisons des efforts pour essayer de faire plaisir à Dieu, nous allons très vite nous épuiser et très vite nous décourager. Nos efforts sont essentiels, mais ils ne sont là que pour accompagner la grâce de Dieu qui est mise en route par notre prière. C'est ça aussi les réalités d'en haut, auxquelles Paul nous encourage, à croire, dans lesquelles, pardon, Paul nous encourage à croire, qu'il nous encourage aussi à regarder. Donc si je résume ici, attention, le fondamental de la foi chrétienne, c'est notre relation personnelle à Dieu, par notre relation personnelle à Jésus. C'est ça tout le sens de l'incarnation. Et tout le reste passe après, commandements, etc., et rites. Et tous ces rites, tous ces commandements, toute cette dévotion que nous pouvons faire à la Vierge et au Saint, n'ont de sens que s'ils nous rapprochent davantage de Jésus-Christ. C'est d'ailleurs Marie, son rôle. Son rôle, c'est un peu comme aux noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Et ensuite, nous devons bien avoir conscience que ce recentrage sur le fondamental de la foi chrétienne, qui est d'aimer le Christ, de nous conduire à aimer nos frères plutôt qu'à les juger, parce que c'est ce que nous serons portés à faire si nous nous centrons sur une morale ou sur nos propres efforts, avant de nous centrer sur notre Dieu, qui aime follement toutes ses créatures. Donc nous devons faire bien attention. Donc en nous recentrant sur le Christ, c'est aussi notre amour du prochain qui doit passer d'abord, avant tout ce qui est rite et commandement, et jugement de valeur. C'est ça la véritable tolérance. C'est pas que tout se vaut, c'est que nous devons être patients, prier et aimer nos frères pour qu'ils découvrent Dieu. C'est ça la vraie tolérance. Et ensuite, la dernière chose, regarder en haut, c'est prendre conscience que cette vie n'a de valeur que si elle nous prépare à l'autre, si elle nous permet de nous préparer à l'autre. Et regarder en haut, c'est remettre la prière à sa place, c'est-à-dire la première, celle qui nourrit, qui justifie tous nos efforts et tout notre amour pour nos frères. Voilà. J'espère donc que cela vous a aidé à un peu plus vous rapprocher du Seigneur. Je vous propose maintenant de prier, si vous voulez bien. Je vais vous laisser pour cela un temps de silence où vous allez pouvoir prier à partir de ce commentaire Ensuite, je me joindrai à vous en priant à haute voix, et enfin je vous laisserai un nouveau temps de silence pour vous permettre de faire vôtre cette prière. Seigneur, oui vraiment, aide-nous à nous recentrer sur toi. Aide-nous à comprendre toujours davantage que notre foi, c'est d'avoir une relation d'amour avec toi, Jésus, et par toi avec le Père. Que ce recentrage aussi nous permette de comprendre que l'amour de nos frères passe avant tout jugement de valeur, tout rite, etc. Que vraiment nous nous souvenions que les deux commandements les plus importants, Jésus, comme tu nous l'as dit, c'est d'aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, et notre prochain comme nous-mêmes. Apprends-nous aussi, Seigneur, à regarder en haut, à avoir soif de cette nouvelle vie que tu nous proposes, cette vie de pur amour pour toi, ton Père, et tous nos frères. Aide-nous à vivre déjà cette vie maintenant. Et enfin, Seigneur, aide-nous à regarder en haut. Aide-nous à comprendre que ce qui fait les victoires, c'est la prière, que tout se joue vraiment dans la prière. Que c'est la prière qui nous donne nourriture, espérance et foi dans les victoires. Et fort de cette certitude, alors aide-nous toujours à aimer davantage dans la patience. J'espère que ce temps passé avec la parole de Dieu en ma compagnie, donc, vous aidez à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, chers internautes.
Free audio post-production by Alphonic.com.